On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Le facteur ne livrera plus le courrier à la porte dans ses villes. Un texte de Clémence Tessier, paru le 21 avril 2026 dans les As de l'info. On t'en a déjà parlé. Le Canada mettra fin à la livraison du courrier à domicile. Ça signifie que, petit à petit, le facteur va cesser de porter les lettres à chaque adresse. Il faudra plutôt récupérer son courrier dans des boîtes postales communes. La semaine dernière, nous avons eu plus de détails sur le plan de Poste Canada. On sait où ça commence et ce que ça pourrait changer autour de toi. Je te dis tout ici. Petit rappel. En octobre dernier, Joël Lightbound, le ministre des Services publics du Canada, avait annoncé que dans les prochaines années, les Canadiens ne recevraient plus leur courrier à la maison. À la place, ils devraient aller le chercher dans des boîtes postales communautaires, comme ça se fait déjà dans de nombreuses villes au pays. Pourquoi? Parce que cette façon de faire coûte moins cher et que Poste Canada perd beaucoup d'argent, 10 millions de dollars chaque jour. Les premières villes touchées. Ce qui a été annoncé la semaine dernière, d'ici 5 ans, les 4 millions d'adresses qui reçoivent encore le courrier à la maison passeront aux boîtes postales communautaires. Le changement se fera par étapes avec une première série de villes touchées dès l'automne 2026. Voici les prochaines villes québécoises à passer aux boîtes postales. Sept-Îles sur la côte nord, La Prairie sur la rive sud de Montréal, Candiac sur la rive sud de Montréal, en tout, ces trois villes représentent 13 000 adresses. D'autres villes ailleurs au pays font aussi partie de cette première vague. Ottawa en Ontario, Etobicoke en Ontario, Moncton au Nouveau-Brunswick, Riverview au Nouveau-Brunswick, Winnipeg au Manitoba, North Vancouver en Colombie-Britannique. Moins de bureaux de poste? Ce changement pourrait aussi en entraîner un autre. La fermeture de certains bureaux de poste, c'est-à-dire des endroits où tu vas pour poster des lettres ou des colis. Selon Poste Canada, ils sont de moins en moins utilisés. Aujourd'hui, la plupart des gens font leurs démarches en ligne et reçoivent beaucoup moins de lettres qu'avant. Des réactions partagées. Ce changement ne fait pas l'unanimité. Le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes craint que ce plan entraîne des pertes d'emplois ou des changements importants dans le travail des employés. La députée Marilyn Gill, de la Côte-Nord, a aussi critiqué la façon dont la décision a été annoncée. Selon elle, cette mesure est arrivée trop tôt et est irrespectueuse. Elle croit que les différentes régions du Canada auraient dû être consultées avant. Selon elle, ce sont surtout les communautés éloignées qui risquent d'être touchées parce qu'il y a moins d'options de services de livraison dans ces régions. Les gens dépendent donc davantage de Poste Canada pour recevoir leur courrier et leur colis. Toi, est-ce que tu reçois du courrier dans ta boîte aux lettres? Pourquoi certaines odeurs nous paraissent-elles désagréables? Un texte paru le 4 novembre 2025 dans Québec Science. Une odeur, c'est un ensemble de molécules volatiles qui stimulent des récepteurs dans notre nez. Mais comment passons-nous de ces molécules à une sensation agréable ou désagréable? Tout se joue dans le cerveau. Que penses-tu de l'odeur de poubelle? Dégoûtante. et de celle du bacon qui grille, appétissante. Jusque-là, cela semble facile, mais que penses-tu de l'odeur de l'essence ou du parfum de ton voisin? Pourquoi ne percevons-nous pas toutes et tous les odeurs de la même manière? Et comment distingue-t-on une odeur agréable d'une odeur désagréable? Les odeurs sont en réalité des molécules volatiles. Elles restent en suspension dans l'air. Lorsque tu respires, ces molécules pénètrent dans ton nez et atteignent une zone située entre tes yeux, ta muqueuse olfactive. Cette zone ne fait la taille que d'une pièce d'un dollar, mais elle contient plus de 300 types de récepteurs olfactifs différents. Lorsque ces récepteurs captent les différentes molécules, ils envoient un signal électrique le long de neurones jusqu'au cerveau et en particulier au bulbe olfactif. Cette zone traite le signal électrique et distribue l'information à d'autres régions du cerveau où se construit notre perception de l'odeur. L'interprétation d'une odeur se fait donc uniquement dans le cerveau, pas dans le nez. Deux structures du cerveau jouent un rôle crucial dans ce processus. L'amygdale, impliquée dans le traitement des émotions. L'hippocampe, liée à la mémoire et aux souvenirs. Ces régions collaborent pour interpréter l'odeur en fonction de nos souvenirs et de nos expériences positives ou négatives associées à l'odeur identifiée. Notre interprétation des odeurs est également influencée par d'autres facteurs. L'inconfort physiologique. Certaines molécules odorantes peuvent être irritantes à forte concentration. L'instinct de survie. Les odeurs de pourriture nous repoussent naturellement, par exemple, quand elles sont l'avertissement que la nourriture peut être toxique. Le contexte. L'odeur de poutine peut être appétissante le soir, mais rebutante tôt le matin. Quoique, la culture. L'odeur du fromage bien fort est délicieuse dans certaines cultures, mais trop intense pour d'autres. Plus qu'une sensation désagréable, une mauvaise odeur est en fait un phénomène complexe et fascinant. Vas-tu y penser la prochaine fois que tu trouveras que ça pue?
Oh non! Oh non! Non, non!
Faut-il interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans? Un texte de Camille Lopez, paru le 23 avril 2026 dans les As de l'Info. Red Bull, Gourou, ça te dit quelque chose? Au Québec, plusieurs milliers de personnes demandent au gouvernement d'interdire la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Ce mouvement est né d'une histoire triste. La mort de Zachary, 15 ans, en 2024. Je t'explique. L'histoire de Zachary. Zachary Miron, 15 ans, était un ado lumineux qui adorait ses amis et qui faisait beaucoup de sport. Il vivait aussi avec un TDAH, un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité. Pour l'aider à se concentrer, il prenait un médicament qui s'appelle le Bifantin. Le 12 janvier 2024, lors d'une sortie en ski, Zachary a bu une seule canette de Red Bull, une boisson énergisante très populaire. Peu de temps après, son cœur a arrêté de battre et il est mort. Ce qui s'est passé. Tout d'abord, il faut savoir que certains médicaments et certaines substances ne peuvent pas être consommés en même temps. Parce qu'une fois mélangés dans le corps humain, ils peuvent devenir dangereux pour la santé. C'est ce qui s'est passé dans le corps de Zachary. C'est parce que le Bifantin et le Red Bull peuvent tous les deux accélérer les battements du cœur. En les combinant, leurs effets se sont multipliés. Et ils ont fait en sorte que le cœur de Zachary ne battait plus normalement, et il en est malheureusement décédé. On appelle cela une arythmie. important. Si cette nouvelle te stresse, je tiens à te rassurer, ce qui est arrivé à Zacharie est rare. Si tu prends un médicament comme le Bifantin, tu n'es pas en danger de mort. Ce n'est pas le médicament seul qui a causé son décès. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de consommer en plus des boissons énergisantes. Si ça t'arrive, il est très important d'avertir ton médecin et ton pharmacien. Ils sont là pour t'aider, pas te juger ou te chicaner. Normalement, quand on commence à prendre un nouveau médicament, un pharmacien nous explique ce qu'il ne faut pas consommer en même temps. Mais personne n'a dit à Zacharie et à ses parents que le mélange médicament Red Bull pouvait être mortel. Sa maman a confié à Radio-Canada. Mon discours a été différent avec lui. Il y a une différence entre dire « c'est pas bon » et « si tu prends ça, tu peux mourir ». Des gorgées et des risques. Boire des boissons énergisantes, c'est déconseillé aux enfants et aux ados. Pourquoi? Parce que c'est risqué. Elles contiennent beaucoup de caféine qui peut entraîner des effets désagréables comme de la misère à dormir, des maux de tête, de l'anxiété, l'augmentation du rythme cardiaque, une dépendance. Et si on en consomme avant, pendant ou après le sport, elles peuvent augmenter les risques de problèmes au cœur. Malgré ces risques, beaucoup d'ados consomment des boissons énergisantes. Pourquoi? Pour certains, c'est pour rester éveillé plus longtemps. Pour d'autres, c'est pour faire comme les autres ou parce qu'ils sont attirés par les publicités des compagnies qui les vendent. Aux États-Unis, un jeune de 12 à 17 ans sur 3 en boit régulièrement. Aider les autres jeunes. Aujourd'hui, les parents de Zacharie Miron demandent au gouvernement du Québec d'interdire les boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans et plus tard aux moins de 18 ans. Leur but? Éviter que ce drame se reproduise. Ils ont d'ailleurs rencontré la ministre de la Santé et des Services sociaux au début du mois d'avril. Si nous sommes ici, ma conjointe et moi, c'est pour donner un sens à la mort de notre garçon, a déclaré le papa de Zacharie à des journalistes. Ils ont lancé une pétition soutenue par une vingtaine d'organismes du milieu scolaire. Mercredi, plus de 29 000 personnes l'avaient signée. Des interdictions similaires sont déjà en place ailleurs dans le monde. Les boissons énergisantes sont interdites aux moins de 16 ans en Angleterre et en Norvège et aux moins de 18 ans en Lituanie et en Lettonie. Et toi, que penses-tu de leur demande? Es-tu en faveur de cette interdiction? Pourquoi?
A long way, we're changing day to day. Tell me, where do the children play?
Feu d'artifice, panique chez les oiseaux. Un texte paru le 21 février 2025 dans le magazine Québec Science. Les feux d'artifice nous émerveillent, mais pour les oiseaux, c'est une toute autre histoire. Des scientifiques viennent de découvrir que ces spectacles lumineux provoquent un véritable chaos dans le ciel, perturbant les oiseaux sur des distances stupéfiantes. Imagine! Tu dors paisiblement dans ton lit et soudain, des explosions assourdissantes te réveillent en sursaut. C'est exactement ce que vivent des millions d'oiseaux lors du lancement de grands feux d'artifice, par exemple lors de célébrations du Nouvel An. Une équipe internationale de chercheurs a utilisé des radars météorologiques pour observer ce phénomène aux Pays-Bas et mieux comprendre les répercussions des feux d'artifice sur les oiseaux. Et les résultats sont impressionnants. Installés à de nombreux endroits sur le territoire, les radars météorologiques servent d'abord à faire le suivi du couvert nuageux et des précipitations. Mais ils peuvent aussi détecter les mouvements aériens des grands groupes d'oiseaux, comme les migrations nocturnes. Les scientifiques néerlandais ont donc consulté les relevés des radars météo au moment des feux d'artifice du Nouvel An. Puis, ils ont recoupé ces informations avec les données de recensement d'oiseaux réalisées par des centaines de bénévoles sur le terrain. Ils ont pu ainsi identifier les espèces d'oiseaux concernées par les migrations nocturnes. Résultat, comparé à une nuit normale, le nombre d'oiseaux détectés en vol durant la nuit du Nouvel An est multiplié par 1000. Et ce n'est pas une petite perturbation locale. Les effets se font sentir jusqu'à 10 kilomètres des feux d'artifice. Les grands oiseaux, comme les oies et les canards, sont particulièrement touchés. Ils s'envolent en panique et restent en l'air pendant près d'une heure, volant à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Ces vols forcés ne sont pas sans conséquences. Imagine devoir courir un marathon en pleine nuit, en plein hiver, sans y être préparé. C'est l'équivalent pour ces oiseaux. Cette dépense d'énergie inattendue est particulièrement problématique en hiver, quand la nourriture se fait rare. Les chercheurs ont découvert que, pour récupérer, certaines oies passent ensuite 10% plus de temps à chercher de la nourriture durant les 11 jours suivants. Face à ces découvertes, les scientifiques proposent des solutions. Créer des zones sans feu d'artifice près des habitats d'oiseaux. Des alternatives beaucoup moins dérangeantes existent comme les spectacles de drones lumineux. Ces performances silencieuses permettent de créer des tableaux magiques dans le ciel sans perturber nos amis à plumes. Alors, prêt à revoir ta façon de célébrer la nouvelle année? Quel serait ton choix? Continuer ou cesser les feux d'artifice? Lutter contre l'intimidation avec deux souliers différents. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 24 avril 2026 dans les As de l'Info. Vendredi, c'est la première journée de la paire impossible. Le but de cette journée, lutter contre l'intimidation. Et c'est super facile d'y participer. Le 24 avril, il suffit de porter deux chaussures différentes. Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect et la diversité, un des organismes à l'origine de cette journée, a répondu à mes questions. Raphaël, d'où vient l'idée de cette journée? Il y a environ un an, j'ai reçu un appel d'Andy Nulman, le cofondateur du festival Just for Laugh, qui est la version francophone de Juste pour rire. Lui et son équipe voulaient lutter contre la haine en faisant la promotion de la différence. Ils avaient eu l'idée de mettre dans une même boîte à chaussures deux compétiteurs, Nike et Adidas, pour créer une fausse paire, une paire impossible. J'ai embarqué à fond. Le concept a été présenté à une grande conférence, C2 Montréal. On a vendu les 100 paires en 45 minutes. Les sous ramassés ont été remis à notre organisme ensemble. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec cette idée. C'est comme ça qu'est née la journée de la paire impossible, où on invite les gens à porter deux chaussures différentes. C'est pour montrer que, même dans la différence, on peut avancer ensemble. Donc, vendredi le 24 avril, il faut porter des souliers différents? Oui, à la maison, à l'école, au travail. C'est accessible à tous, même avec deux chaussettes différentes dans son salon. Essentiel, c'est que les jeunes portent des chaussures différentes et que ça crée des conversations. Quel est le but de cette journée? Cette journée, c'est une idée simple pour créer des discussions. Les chaussures deviennent un prétexte pour parler à quelqu'un à qui on n'aurait peut-être pas parlé autrement. Le plus fou, c'est que cette idée, née d'un coup de fil il y a un an, est devenue un mouvement international. International, vraiment? On a la chance d'avoir des grandes compagnies comme partenaires. L'Oréal Canada, Aldo, Air Canada. Aldo a décidé de parler de la journée sur toutes ses plateformes, aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie. Depuis quelques jours, on voit déjà des gens partager des photos de leurs chaussures différentes sur les réseaux sociaux. Ça fait boule de neige. Et c'est ce qu'on souhaitait. Cette lutte, elle concerne tout le monde. Sais-tu quelles chaussures tu porteras vendredi? En fait, je porte déjà une paire impossible. Mes chaussures pour vendredi sont en création. C'est une personne étudiante au Collège La Salle qui les fait sur mesure. Ce sera une paire avec un talon pointu et un talon carré pour montrer que ça n'empêche pas d'avancer. Je vais la dévoiler jeudi soir au CAFA Awards, qui sont un peu les Oscars de la mode canadienne. Et puis, je la porterai toute la journée vendredi. Je vais passer d'une entrevue à l'autre, rencontrer des partenaires comme L'Oréal, visiter des milieux qui participent, aller dans une école. Voir le mouvement vivre sur le terrain. Dans les nouvelles, on parle d'une augmentation de l'intimidation dans les écoles. Est-ce que c'est aussi ce que tu remarques? Oui, on le ressent tous les jours. On a peut-être baissé la garde ces dernières années en pensant que ça allait mieux, mais c'est un combat constant. Mais je tiens à dire qu'il y a aussi beaucoup de beau. Les jeunes sont bienveillants, curieux. Il faut le montrer aussi. Tes souhaits pour la journée du 24 avril? Le but, c'est de faire du bien, de propager des sourires, parfois... En changeant notre petit monde, on peut changer le grand. Participeras-tu à la journée de la paire impossible vendredi? Décris-moi ta paire impossible. Un feu éternel sous une ville fantôme. Un texte paru le 26 janvier 2025 dans le magazine Québec Science. Bienvenue à Centralia, la ville fantôme de Pennsylvanie où un incendie souterrain brûle dans d'anciennes mines de charbon depuis plus de 60 ans. Un feu dans une ville, presque banal. Mais un feu sous une ville. Bienvenue à Centralia, une ville fantôme de Pennsylvanie dont les entrailles sont consumées par un incendie souterrain depuis plus de 60 ans. Comment est-ce possible? Tout commence en 1962, dans cette petite ville minière américaine située à un peu plus de 200 km à l'ouest de New York. Il subsiste des doutes sur l'origine exacte de l'incendie, mais cette version reste la plus répandue. Un groupe de pompiers volontaires brûle des déchets près d'une ancienne mine de charbon. Le feu se propage alors dans la mine et enflamme les immenses réserves de charbon. Il couve maintenant à des profondeurs allant jusqu'à 90 mètres et s'étend sur plus de 13 kilomètres. Imagine un four géant qui ne s'éteint jamais. Même si le feu n'a pas ressurgi à la surface, les conséquences ont été désastreuses pour la ville. Des fissures béantes se sont ouvertes dans les rues, des nuages de gaz toxiques se sont répandus et le sol est devenu brûlant par endroits. Les nappes phréatiques et les cours d'eau ont également été pollués par les gaz toxiques. En 1981, face à cette situation dangereuse, le gouvernement a dû ordonner l'évacuation totale de la ville. Aujourd'hui, Centralia est presque entièrement rasée et abandonnée, à l'exception de quelques maisons, d'une église et de 4 cimetières. En 2019, un seul habitant demeurait encore dans la ville. Malgré les dangers, Centralia attire des visiteurs curieux, devenant une sorte de destination touristique macabre. Pourtant, les sols restent instables et les émanations toxiques sont toujours dangereuses. Selon les estimations, l'incendie pourrait encore se poursuivre pendant plus de 250 ans. Et toi, visiterais-tu cette ville fantôme au feu éternel? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. Merci à Gilbert, Eva,
Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.